la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Je n'ai pas mis longtemps à trouver la bonne voiture. Une Opel Lasta 37 de 9 ans, jaune citron, m'attend dans la rue. Elle a la radio et semble être en état de marche satisfaisant. L'extérieur est propre, on a passé l'aspirateur à l'intérieur et vidé le cendrier. C'est vrai qu'elle a roulé un nombre incroyable de kilomètres, 155 000. Mais elle m'a coûté des clopinettes. Donnée plutôt que vendue, dirait papa. Je paie la voiture cash en comptant les billets sur la table. Le vendeur me jette un regard en coin, puis tamponne la quittance et appose son paraffe sur le cachet tout frais. Les points de suture enlevés à l'hôpital, je peux prendre la route. Mais je passe d'abord par un marché aux fleurs à la périphérie de la ville afin d'acheter du terreau pour les boutures. Je ne résiste pas à la tentation d'acheter en plus deux rosiers en pot. Enfin, de mes doigts terreux, je tasse légèrement l'humus autour des radicelles blanches toutes fines et je range avec précaution les plantes dans le coffre. Je roule, pour commencer, dans la direction du soleil. Ça ne peut pas être plus simple. Je suis peut-être encore à la recherche de moi-même, mais en tout cas, je sais où je vais. À la première station-service, j'achète des bouteilles d'eau pour arroser mes plantes. Une carte routière pour m'orienter, un sandwich en prévision du déjeuner et un agenda pour noter les renseignements statistiques, kilomètres parcourus et dépenses. Au moment de payer, alors que la caissière a déjà fait le total, je tends la main vers un paquet de préservatifs près de la caisse et le pose sur la carte routière. Je ne vais pas me laisser prendre au dépourvu lorsque hasard et bonne fortune croiseront ma route comme celle des autres. Il y en a 10 dans le paquet, ce qui devrait me suffire pour quelques jours, voire quelques années. Je téléphone à papa d'une cabine en sortant de la station-service juste pour lui dire qu'on m'a enlevé les fils et que j'ai pris la route. « Tu ne vas pas conduire sur les autoroutes, mon petit Lobby. »« Non, je prendrai les routes de campagne, comme on avait dit. »« Les étrangers ne roulent pas à moins de 120 à l'heure, naturellement. »« Du reste, nous, on peut toujours parler. »« Il n'y a qu'à lire les journaux ici. » Le week-end dernier, ils ont chopé un jeune de ton âge à 140 km à l'heure sur un chemin de terre en pleine zone de pavillon de vacances. Il conduisait un véhicule d'entreprise spécialement orné d'une pub pour un herbicide que tout le monde a remarqué quand il est passé comme un bolide. On l'a attrapé sans permis à une buvette où il s'était commandé des frites. « Ne t'en fais pas, la bagnole que j'ai achetée ne dépasse pas les 70 à l'heure, » dis-je. Bien que je sois, à strictement parler, hors de la juridiction de papa. Un homme à l'étranger se trouve exposé à diverses tentations, mon petit Lobby, et plus d'un brave gars s'y est brûlé les ailes. Puis il me dit que Joseph va venir manger à la maison et que lui-même a eu l'idée d'inviter aussi Boga, du fait qu'elle l'a invité l'autre jour à partager son pot-au-feu. L'ennui, c'est qu'il craint de ne pas arriver à déchiffrer les recettes de maman. Ce sont des feuilles volantes, l'écriture n'est pas toujours lisible et elle a l'air de passer sous silence quantité et proportion. Il n'y a aucun chiffre sur les feuillets. Qu'est-ce que tu comptais préparer ? Une soupe au flétan. Je me souviens que c'est plutôt compliqué la soupe au flétan. J'ai déjà acheté le poisson. La question est de savoir quand est-ce que les pruneaux entrent en jeu et s'il faut les mettre à tremper le matin comme lorsqu'elle les faisait en compote. Je ne pense pas qu'elle ait mis les pruneaux à tremper le matin quand elle faisait de la soupe au flétan. C'est bien ce qu'il me semblait aussi. Bon, eh bien, papa, je t'appellerai quelque part en cours de route. Vas-y mollo, mon petit Lobby. J'étale la carte routière sur le capot jaune citron et repère l'itinéraire. Je ne connais pas le pays, mais je cherche à fixer les noms de lieux, les numéros des routes et les distances. Je vois tout de suite qu'en suivant l'ancienne voie des pèlerinages qui traverse trois frontières, je ferai à coup sûr des zigzags invraisemblables d'une église à l'autre et le voyage prendra plus de temps, mais en contrepartie, j'aurai la possibilité d'étudier la végétation et de bavarder avec les habitants. Quand on doit à tout moment demander son chemin, on rencontre des gens, on pratique la langue et on mange dans des restaurants du terroir. Je pose l'index sur la carte et décide que c'est là que je passerai la nuit, quelque part par là, à 2 centimètres près. Soit à quelque 200 kilomètres près sur l'Atlas mondial. On a mené de grandes guerres pour moins que cela, même pour quelques millimètres en plus ou en moins. Mon index glisse jusqu'au bord de la carte, jusqu'au terme du voyage. En fait, tout au bout et tout en bas du capot. L'endroit n'est pas marqué sur la carte, mais il me semble que la route du pèlerinage prend fin non loin de là. Je me donne 5 jours pour arriver au but, à la roseraie. C'est la chronique que je lis et, peut-être l'aurez-vous reconnu, je viens de lire un extrait du livre Rosa Candida de Audeorava Olafsdottir. Cette écrivaine islandaise a publié 8 livres, à ma connaissance, aux éditions Zulma, et un 9e arrive très bientôt. Et j'ai eu le plaisir de la rencontrer il n'y a pas si longtemps lors du dernier festival Atlantide, en date, une très belle rencontre à la librairie La Vie Devant Soi, rue du Maréchal Joffre à Nantes. Et on avait beaucoup discuté tout au long de ce week-end de littérature. Et j'avais lu 5 de ses livres pour le besoin de cette rencontre, mais absolument pas celui-ci, Rosa Candida, qui est pourtant celui qui l'a fait connaître en France, peut-être l'un de ses plus connus, qui est son 2e roman et le 1er publié en français. La traduction de ce roman est signée Catherine Eijolfsson et il a paru originellement en 2007, puis 2010 pour la traduction française. Donc, j'en suis à la page 65 précisément et au chapitre 17. Comme souvent dans les romans de Audeorava Olafsdottir, les chapitres sont relativement courts, ils sont assez nombreux et ils permettent un rythme assez puissant à la narration, narration qui elle-même, par contre, se ralentit souvent. Il y a assez peu de grosses scènes d'action et de mouvements d'accélération. On est plutôt dans des réflexions, dans un flottement aussi, d'un temps ou d'une temporalité qui appartient en propre au narrateur ou à la narratrice. En l'occurrence, ici, c'est un narrateur, vous l'aurez peut-être compris, Lobby, et c'est l'une des rares fois où, dans son écriture, Olafsdottir écrit au masculin. Elle a plutôt développé des personnages féminins sur la plupart de ses autres romans, à l'exception de Heur, baptisé également Hôtel Silence. Et c'est un jeune garçon, déjà père, qui prend la route, une route vers une ancienne roseraie sur le continent. Il vient d'Islande, comme tous les personnages d'Olafsdottir, et il part sur le continent. On ne sait pas bien exactement où il est dans cette géographie, probablement Suède, Norvège, quelque chose de l'Europe du Nord. Et il y a donc une sorte de décalage. Tout n'est pas bien compris dans la logique et dans la manière de vivre des personnes qu'il croise. Et on ne sait pas bien où ça va dans ce roman, pour le moment, là où j'en suis, puisque le livre fait quelques 260 pages et je n'en ai lu que 60 et quelques. Autant dire qu'il me reste beaucoup à découvrir du trajet de Lobby et de cette sorte d'initiation probable qui va lui arriver. C'est souvent la manière dont les récits se développent dans l'œuvre de Audeorava Olafsdottir. Un trajet, une rupture, quelque chose qui fait que le personnage principal, le narrateur ou la narratrice, va connaître peut-être une sorte d'évolution dans son état, en tout cas un changement. Un changement pas forcément brutal, quelque chose qui se glisse au fil du temps et au fil de la narration. Mais cette narration est, elle aussi, par contre, ramassée sur une temporalité précise. C'est la temporalité donc de ce voyage pour Rosa Candida. Il y a un lien très fort avec les roses et la roseraie. Le garçon est botaniste et il cultive. Et il a beau être jeune, il a l'air d'avoir déjà toute une réflexion sur le vivant et sur ce qui pousse. Là aussi, d'autres thèmes qui reviennent très régulièrement dans l'œuvre de cette grande romancière islandaise. Il vous coûtera dans sa version poche 9,95€ ce livre, Rosa Candida, que je recommande très fortement, tout comme les autres livres de Audeorava Olafsdottir, qui devient pour moi maintenant une sorte d'écrivain pantoufle, et ça n'est pas péjoratif, c'est-à-dire quelqu'un dont on aime à retourner dans l'écriture et où c'est toujours une belle surprise de découvrir un nouveau livre qu'on n'aurait pas lu de cette autrice ou de cet auteur. Rosa Candida, Audeorava Olafsdottir, donc, pour cette chronique « Je lire », on termine avec un rien de musique, un peu de rose.
She was as tender as a rose. She was as soft as cotton down, and from her head down to her toes, she was a dream that hung around. She was as fresh as April and as warm as May, and all the fellas threw their hearts her way, but all of her loving was Joe's. She was as tender as a rose. I guess that Joe was city slick. His feelings went from cold to hot. Her love to him was just a kick. His ego needed her a lot. And when he took her away, she wore a smile. Fate crossed its fingers for that lovely child. 'Cause all of her loving was Joe's. She was as tender as a rose. She came back walking all alone. She wasn't gone for very long. She came back with a heart of stone. We knew that everything gone wrong. And when you ask her why she's out each night, she'll say, "Brother, once I tried to be right. Once all of my loving was Joe's. I was as tender as a rose. She was as tender as a rose." And that's the way the story goes. And sometimes the rose was he.